Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Franceinter.fr.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Notre thème ce soir, l'extrême gauche dans l'élection présidentielle. Ses idées, ses projets est-elle utopiste, l'extrême gauche? Qui sont ses électeurs? Si l'on en croit les sondages, jamais l'extrême gauche n'a été à un niveau aussi faible. 0,5% pour le NPA et Philippe Poutou, entre 0,5 et 1% pour Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière. Pourtant, le capitalisme a connu une crise sans doute la plus grave depuis 1929. On aurait pu imaginer que cela favoriserait l'extrême gauche qui ne cesse de dénoncer les méfaits, les dégâts de l'ultralibéralisme. Eh bien non, la lutte finale a bien du mal à se faire entendre. Dites-nous ce que vous en pensez. Pour vous répondre, Jean-Pierre Mercier, qui est porte-parole nationale de Lutte ouvrière et soutien de Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière. Et puis des spécialistes des questions politiques, Maurice Safran, PDG de l'hebdomadaire Marianne, Patrick Jarraud, chef du service politique au journal Le Monde et au Monde.fr. Et au téléphone, Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
01 45 24 7000.
Thierry à Nice est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Alors que pensez-vous de l'extrême gauche dans cette élection présidentielle?
Je vous remercie d'abord de prendre mon appel. Moi je pense que vous avez dit à l'instant que l'extrême gauche était en recul dans cette élection présidentielle. Il semble qu'au contraire, Jean-Luc Mélenchon qui défend des idées d'extrême gauche soit quand même très avancé puisqu'il dépasse aujourd'hui dans les sondages. Marine Le Pen. Et donc, moi, ce que je disais, c'est qu'est-ce, dans un contexte de crise, vous l'avez parfaitement décrit dans votre introduction, dans la crise que nous vivons, ne vaut-il pas mieux entendre des programmes qui défendent l'humain d'abord, plutôt que d'entendre des programmes qui opposent les humains entre eux? Voilà, c'était ma question.
Jean-Pierre Mercier.
Oui, bonsoir. Sur la fin de l'intervention de l'auditeur, évidemment, je suis plutôt content que Mélenchon y dépasse Marine Le Pen, c'est évident. Maintenant, sur la notion de l'extrême gauche, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit d'extrême gauche. D'ailleurs, il renie lui-même cette étiquette. Il est en désaccord total. Il se dit pas communiste. Il se dit social-démocrate et de gauche, et bien de gauche et 100% de gauche. Voilà. Donc, et c'est un peu tout le problème avec cette étiquette de l'extrême gauche. Moi, je la renie pas. À Lutte ouvrière, on la renie pas du tout. Maintenant, elle a un gros défaut, c'est qu'elle est extrêmement floue et nous, on préfère l'étiquette de communiste révolutionnaire. Parce qu'il y a réellement une grande fracture entre Lutte ouvrière et la gauche classique. C'est que la gauche classique s'intègre tout à fait dans le système capitaliste, ne veut absolument pas le changer, espère simplement le modifier, arrondir les angles, et on va se rendre compte, si Hollande est élu, on va se rendre compte que dans les 6 prochains mois ou la prochaine année, arrondir les angles en pleine crise économique, ça va pas être possible. Et les patrons vont faire la guerre et vont demander au gouvernement, quel qu'il soit, de nous faire les poches pour en avoir pour eux encore plus. Alors évidemment, dans ces élections, Nicolas Sarkozy est l'adversaire numéro un, à la fois pour la gauche, c'est évident, et aussi pour Lutte ouvrière. Maintenant, l'ennemi du monde du travail, c'est quand même le poison des illusions électorales qu'on peut mettre dans un changement de gouvernement.
Maurice Safran, que pensez-vous de cette expression qu'a employée Jean-Pierre Mercier, communiste révolutionnaire?
Je crois qu'il pose bien le problème. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, c'est un socialiste de gauche. Et dans l'histoire de la gauche socialiste française, c'est une catégorie qui existe et qui n'a rien à voir avec l'extrême gauche. D'ailleurs, quand un candidat d'extrême gauche, Olivier Besancenot, et quand l'extrême gauche, on a cru à un moment que l'extrême gauche allait se développer à travers Olivier Besancenot et le NPA, c'est précisément parce que Besancenot quittait les oripeaux de l'extrême gauche et était en train de devenir un candidat et de créer un parti de gauche. Et c'est bien tout le problème. Effectivement, si Lutte ouvrière reste, et c'est tout à fait le droit de Lutte ouvrière, reste un mouvement communiste révolutionnaire, alors effectivement, dans ce pays, lutte ouvrière restera électoralement extrêmement bas. Ça, il n'y a aucun doute aujourd'hui.
On a reçu un courriel d'Estelle à Paris. Elle écrit « Ce qu'Arlette Laguiller et Olivier Besancenot ont raté, eh bien Jean-Luc Mélenchon est en train de le réussir parce que lui est prêt à gouverner. Or, l'extrême-gauche n'arrête pas de dire qu'elle ne veut pas gouverner. Nathalie Arthaud reproche à Jean-Luc Mélenchon d'avoir été ministre de Lionel Jospin comme si c'était une trahison. Patrick Jarreau, c'est pas ça la grande différence entre Mélenchon et Nathalie Arthaud? Mélenchon serait prêt à gouverner.
Oui, enfin, je suis pas sûr que Mélenchon lui-même soit prêt à gouverner. La situation est un petit peu complexe pour lui. Lui dit qu'il n'entrerait pas dans un gouvernement de gauche, en tout cas aux conditions ou pour appliquer le programme qui est celui du Parti socialiste. Il est possible que ses alliés communistes, qui forment quand même une grande partie de la force militante sur laquelle il s'appuie, soient eux d'un avis différent. Donc Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et le Front de Gauche aujourd'hui, c'est une chose. Le Front de Gauche après le 6 mai, ça sera quelque chose d'assez différent. Et on peut se demander si à ce moment-là, le carrosse dans lequel roule Jean-Luc Mélenchon ne risque pas de devenir un peu citrouille, en tout cas pour lui-même. Différence, je crois, c'est que au fond, ce à quoi on assiste en France depuis une quinzaine d'années, c'est que il y a d'un côté des partis, des organisations comme Lutte ouvrière ou l'ex-Ligue communiste, qui sont des organisations trotskistes, qui sont issues d'une histoire qui est la critique de gauche du communisme, hein, d'où le fait qu'elle s'intitule, dans le cas de Lutte ouvrière, communiste révolutionnaire. Et puis il y a autre chose qui est apparue d'assez grandement différent, en tout cas qui procède d'une autre histoire, qui est la critique de gauche de la social-démocratie. Et en particulier en Europe, qu'on voit surgir en Allemagne avec le parti Die Linke, et donc en France avec le parti de gauche que Jean-Luc Mélenchon a créé il y a quelques années maintenant. Donc ce sont deux histoires différentes, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, à la faveur d'un certain nombre de circonstances, y compris le fait que Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière et Olivier Besancenot pour l'autre courant trotskiste ne soient pas candidats cette fois-ci, donc à la faveur de circonstances et d'autres, c'est le courant de la critique de gauche du socialisme qui est en train de prendre le dessus sur l'héritier de la critique de gauche du communisme.
Guillaume Roquette, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Oui, je crois qu'on est toujours à l'extrême gauche de quelqu'un. Donc effectivement, les candidats Poutou et Arthaud sont à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il y a effectivement une différence de radicalité dans les programmes. Il y a à l'extrême gauche la proposition en économie d'interdire tout licenciement ou de nationaliser de façon massive les entreprises, qui n'est pas chez Jean-Luc Mélenchon. Cela dit, il me semble quand même qu'on peut dire que Mélenchon est d'extrême gauche dans la mesure où par rapport au virage social-démocrate qu'a pris le Parti Socialiste avec François Hollande, qui s'abstient par exemple de toute mesure de relance par la consommation, le programme de Mélenchon apparaît extraordinairement radical dans sa réalité. Quand le SMIC à 1700 euros, la titularisation des 800 000 précaires de l'administration française, ou la régularisation de tous les sans-papiers, ce sont des mesures qui sont très radicales par rapport à ce qu'est aujourd'hui le centre de gravité de la gauche.
Alors moi, je lisais sur le site de Nathalie Arthaud cette phrase « Je n'ai pas un programme réalisable dans le cadre d'une élection à supposer même que j'y obtienne un nombre de voix important. »
Tout à fait.
Jean-Pierre Mercier.
C'est vrai.
Donc voilà, elle se présente, mais elle ne veut pas être élue, elle sait qu'elle ne le sera pas. Et de toute façon, vous ne voulez pas aller au pouvoir. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez ?
Non, c'est pas ça. On se présente, Nathalie Arthaud se présente, et présente un programme de lutte. Alors c'est un programme électoral qui est assez spécifique parce que la situation actuelle est très spécifique. On est en pleine crise économique et le programme que l'on présente à l'ensemble de l'électorat aux travailleurs, c'est des objectifs de lutte, des mesures qui nous paraissent vitales, qui répondent aujourd'hui aux attaques incessantes, à la guerre que mène le patronat contre les travailleurs.
C'est... Ça veut dire quoi, objectif de lutte ?
Objectif de lutte,
bah, c'est... Des manifestations ou la révolution ?
Vous savez, l'explosion sociale, c'est pas les révolutionnaires, c'est pas les communistes révolutionnaires qui vont la créer, cette explosion sociale. Ce sont les patrons, ça sera le futur gouvernement, quel qu'il soit, qui va, par ses mesures, par sa politique, générer cette explosion sociale. Le problème, c'est quand il y aura cette explosion sociale, sur quoi il faut se battre ? Contre qui il faut se battre ? Pourquoi il faut se battre ? Bah, face au licenciement, face au chômage qui explose, bah, nous, on pense que la meilleure des réponses, aujourd'hui, c'est d'imposer au patronat l'interdiction des licenciements. Écoutez, moi, il y a quelque chose qui est choquant dans cette société, c'est que un patron, en temps de crise économique, peut librement licencier n'importe quel travailleur. Pour nous, c'est un scandale. C'est comme si un capitaine de paquebot en plein océan balançait par-dessus bord ses passagers simplement avec une petite bouée de sauvetage. Mm-hmm. C'est considéré comme un crime. Eh bien, un employeur qui licencie ses travailleurs, pour nous, c'est considéré comme un crime social. Donc oui, alors ça, l'interdiction des licenciements, c'est comme les congés payés en juin 36, c'est comme la loi des 40 heures en juin 36. C'était dans aucun programme électoral, même pas celui de Léon Blum. Et c'est la grève générale de juin 36, c'est les travailleurs qui l'ont imposé au gouvernement et au patronat et qui l'ont transformé en une loi qui existe encore aujourd'hui, enfin plus les 40 heures.
Maurice Safran.
Non mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans les sondages, pour le moment dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon réunit quasiment toutes les voix, et un peu plus, de la gauche de gauche, c'est-à-dire ce qui est à la gauche de la social-démocratie, mais qui ne s'inscrit pas dans le mouvement révolutionnaire que décrit M. Mercier, très bien, et qu'il prend aussi une grande partie des électeurs d'Arlette Laguiller et d'Olivier Besancenot. C'est ça le phénomène sondagier. Bon, quand on fait les comptes, grosso modo, c'est ça. Même si grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une chose précise, de mon point de vue. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'électorat de gauche qui considère que la social-démocratie s'est compromise et s'est trop compromise avec le néolibéralisme. Je crois que c'est très clairement ça qui est dit aujourd'hui. Effectivement, il y a une partie des électeurs de gauche. Est-ce que ça sera à 5%, 10%, 15%? C'est l'enjeu des jours qui viennent. Qui estime que sur la crise du capitalisme, la social-démocratie a été complice de cette crise du capitalisme. Et c'est sur cette analyse-là que Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs fait une excellente campagne, tout le monde, à droite et à gauche, reconnaît que Mélenchon fait une excellente campagne, c'est sur cette critique-là de la gauche social-démocrate qu'il atteint les scores qui sont les siens aujourd'hui dans les sondages.
Et il prend des voix à Nathalie Arthaud et à Philippe Poutou. Jean-Pierre Mercier,
je suis pas sûr, parce qu'Arlette Laguiller, aux dernières élections, faisait 1,3%. Aujourd'hui, Nathalie est créditée de 1%. Depuis le début, on est crédité de 1%. Et Mélenchon est parti de 6 pour arriver à 15. On sait pas ce qu'il en sera à l'arrivée. Il prend certainement une partie sur l'électorat socialiste qui trouve que Hollande est très mou et que, de toute façon, il faudrait un peu le critiquer. Moi, je vais faire un...
Et que vous, avec votre révolution, vous n'êtes pas très crédible, peut-être.
C'est pas qu'on n'est pas crédible. C'est certain qu'aujourd'hui, défendre un programme de lutte, il n'y a pas une adhésion dans le monde du travail, parce qu'aujourd'hui, les travailleurs ne se sentent pas la force de lutter. Voilà. Maintenant, ça nous empêche pas de dire la vérité. Et je vais faire un compliment à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je trouve que c'est le meilleur illusionniste de cette campagne électorale. Il a un talent formidable pour verser des illusions dans l'électorat de gauche. Et tout ce qu'on a vécu avec Mitterrand, Jospin, avec des illusions, il y a eu beaucoup de travailleurs qui ont des illusions, qui ont donné leur espoir dans la gauche au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, il est en train de nous refaire le même disque, nous refaire la même histoire.
Et vous ?
Et à nous, on dit l'inverse. On dit que c'est pas les élections qui peuvent changer la vie des travailleurs. Et on se présente pour le dire.
Ouais.
Parce qu'on est les seuls à le dire. Oui, parce qu'on est communiste. Parce qu'on pense que la seule chose qui peut changer aujourd'hui la donne, le rapport de force face au patronat, ça sera les futures luttes qu'on sera capable, que le monde du travail sera capable de mener. Et moi, je vous fiche mon billet que dans les 6 premiers mois, il faudra même pas attendre 6 mois ou 1 an que l'ensemble de l'électorat de gauche qui aura voté pour Mélenchon et qui aura voté pour Hollande vont être déçus et vont... Le problème, c'est qu'après, on va récupérer la démoralisation des militants ouvriers, on va récupérer la démoralisation des travailleurs, et que là, les patrons, ils auront gagné, ils auront marqué un point. Et ça, moi, je l'ai vécu après la gauche plurielle de Jospin, où nous, les militants de lutte ouvrière, on a passé notre temps à remonter le moral de nos camarades de travail. Bien sûr qu'il faut pas mettre ses illusions et ses espoirs dans le bulletin de vote. C'est dans nos luttes collectives qu'on peut mettre... Il y a que ça qui peut changer la donne.
Guillaume Roquette, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Oui, ce que disait Jean-Pierre Mercier, et je crois on est au cœur du sujet, il disait les élections ne peuvent rien changer. La différence entre l'extrême-gauche, entre Artaud, Poutou et Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas seulement une différence de programme, c'est une différence dans le rapport au monde. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans une majorité qui a vocation à venir au pouvoir pour changer les choses. Alors que dans le vote d'extrême-gauche est un vote gratuit, un vote purement protestataire ou un vote de rêve, je sais pas comment l'appeler.
Ah, on rêve pas, monsieur, on rêve pas.
C'est Jean-Pierre Mercier qui intervient.
Je travaille dans une usine qui va fermer à l'horizon 2014. Je peux vous dire que je rêve pas quand je défends l'idée de l'interdiction des licenciements.
Excusez-moi. Non, mais je dis simplement que vous êtes dans une forme de rêve quand vous dites je présente un candidat aux élections en sachant que les élections ne changeront rien. Alors, ou c'est une forme d'utopie.
Ça vous étonne,
alors,
disons, oui, plutôt ça, que rêve. Vous pouvez pas
c'est,
le comprendre.
C'est la façon de voir les choses. C'est pour ça, c'est dans cette logique-là, par exemple, qu'Arlette Laguiller, en 2002, refusait d'appeler à faire voter Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen.
Parce on que, a eu raison. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs nous ont donné raison après coup.
Voilà.
Après coup.
Oui, mais c'était un choix d'auto-exclusion du système. Et en ça, cette extrême-gauche-là, de par son caractère minoritaire, mais aussi de par ce positionnement, elle n'est pas vraiment dangereuse, entre guillemets, pour la gauche, parce que en se situant hors du système, elle ne tire pas le candidat dominant, en l'occurrence François Hollande, vers la gauche. Alors qu'avec Jean-Luc Mélenchon, là, c'est différent, puisque on se doute bien qu'avec un score important de Mélenchon au premier tour, Hollande est obligé d'en tenir compte, alors que Ségolène Royal n'a pas tenu compte des plus de 4% de Besancenot au premier tour des élections en 2007.
Et elle a une de Valeurs Actuelles qui paraîtra demain, une photo de Jean-Luc Mélenchon et ce titre, L'Enragé. Comment Jean-Luc Mélenchon a redonné vie à la gauche communiste. Patrick Jarreau, vous voulez intervenir ?
Oui, en une du Monde qui est parue aujourd'hui et qui sera lisible demain, le phénomène Jean-Luc Mélenchon auquel nous consacrons deux pages.
On en parle beaucoup
puisque
soir,
nous sommes à l'heure de la publicité, il n'y a pas de raison de s'en priver. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est arrivé avec Olivier Besancenot en 2002, donc percée d'Olivier Besancenot, donc dans le contexte qui a été rappelé tout à l'heure, qui monte très haut à l'élection, 5%, et qui est un personnage extrêmement populaire, au fond, un petit peu, évidemment c'est pas le même genre de personnage, mais un peu comme l'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Et à partir de là, on pouvait penser que peut-être l'organisation dont il faisait partie, donc qui était la Ligue communiste révolutionnaire à l'époque, donc avait peut-être là trouvé le personnage et le dispositif politique qui allait lui permettre de sortir de sa marginalité et de peut-être conquérir cet espace à la gauche de la gauche. Et puis, finalement, ce qu'on constate 10 ans après, c'est que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait en grande partie parce que le choix qui s'est imposé majoritairement au sein de cette organisation, ça a été de refuser toute perspective d'accord avec le Parti Socialiste. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en effet, Mélenchon, lui, même s'il dit qu'il ne négociera pas, il n'entrerait pas dans un gouvernement aux conditions du Parti Socialiste, il dit en effet en même temps qu'il recherche un accord avec le Parti Socialiste, que le moment venu, pourquoi pas, à condition évidemment que le programme du Parti Socialiste évolue. Autrement dit, il y a dans cette partie de l'électorat une demande de radicalité, mais aussi une demande d'union au second tour contre la droite.
Et ce courriel d'Antoine à Lille, comment peut-on imaginer que les problèmes de la France de 2012 vont se régler avec les théories de Trotsky ? Jean-Pierre Mercier, d'un mot.
Bah écoutez, nous on fait confiance dans le monde du travail pour... Vous savez, là, je vais réagir juste avant. Je vais répondre à la question, mais je vais réagir juste avant. Nous, on a notre but, c'est pas de faire peur à la gauche. Notre but, c'est pas d'être dangereux pour la gauche. Notre but, c'est d'être dangereux pour les patrons. C'est de faire en sorte que les travailleurs, quand ils vont se mobiliser, ils puissent avoir une politique, ils puissent avoir une perspective, ils puissent savoir comment s'organiser et comment gagner, faire reculer les patrons le plus loin possible et leur imposer des mesures pour protéger leurs conditions de vie, protéger leur emploi, protéger leur salaire et imposer un contrôle sur l'économie, leur contrôle sur l'économie, et que ça soit plus les financiers et les banquiers qui dirigent. Alors oui, ça, c'est les idées de Léon Trotsky. Parce que aujourd'hui, la société n'a pas changé. Même, on est pratiquement pareil qu'en 1929. On n'en est pas encore là. Mais demain, il est fort à parier que la crise économique va s'aggraver, que la société tout entière, on va s'enfoncer dans la crise. Et là, ça sera un camp contre un autre. Il faudra jouer notre peau, il faudra la défendre notre peau jusqu'au bout. Et je peux vous dire que pour défendre sa peau, il faudra pas qu'on fasse comme le monde, comme les travailleurs grecs. Il faudrait qu'on ait une perspective, une politique à suivre pour qu'on se défende et pour qu'on gagne surtout. Voilà, il y en a marre de subir.
Maurice Safran, PDG de l'hebdomadaire Marianne. Maurice Safran, il faut que vous coupiez votre téléphone portable parce que ça fait des interférences sur l'antenne. Moi, je les entends dans mon casque. Coupez-le complètement, ce sera mieux.
Vous avez parfaitement raison.
Trotsky, est-il toujours d'actualité ?
Vous ne faites pas peur à la gauche. C'est Jean-Luc Mélenchon qui fait peur à la gauche. Ça, vous avez parfaitement raison.
Attendez une seconde.
Ce qui est intéressant, peut-être qu'ils vont s'entendre, ça, vous n'avez pas tort. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les ennemis historiques de Jean-Pierre Mercier, les communistes, les ennemis historiques de Jean-Pierre Mercier dans le mouvement ouvrier, eux, ils sont beaucoup plus hollandais que ne l'est Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est vrai. Et effectivement, ce qu'a dit Patrick Jarreau tout à l'heure est absolument fondé. Et ça va être le grand défi du 7 mai. C'est que le Parti communiste, lui, il n'a absolument pas l'intention, pour toute une série de raisons, d'être hors du pouvoir de gauche si Hollande gagne l'élection présidentielle. Donc effectivement, là, le jeu pour Mélenchon, à partir du 6 mai, le jeu pour Mélenchon devient beaucoup plus compliqué si Hollande gagne. Parce que les intérêts du Parti communiste ne sont peut-être plus les siens. Donc il est bien possible que Jean-Luc Mélenchon mange son pain blanc jusqu'au 6 mai.
Restons sur l'extrême gauche. Le nom de Trotsky, ça semble complètement irréaliste qu'on évoque aujourd'hui Trotsky. Mais, Patrick Jarreau.
Alors, je sais pas si la figure de Trotsky, enfin, nous sommes, presque un siècle après la révolution de 17. C'est un personnage qui appartient à l'histoire. On peut s'intéresser à ses écrits, qui sont tout à fait passionnants. En y voir un guide pour l'action politique aujourd'hui, effectivement, ça paraît un peu étrange. Mais, en même temps, quand Jean-Pierre Mercier dit, au fond, est-ce que la situation, ou en tout cas la crise, qu'on a connu en 2008-2009 est très différente de celle de 1929. Ben, il a raison. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire. Et les économistes les plus convaincus que la seule économie possible est celle du marché ont dit précisément cela. Et on dit, la leçon de 1929, bien étudiée, nous a permis d'éviter la catastrophe qui a été celle des années 30. Mais c'est vrai que dire que la société, en tout cas le fonctionnement de l'économie de marché n'est pas radicalement différent aujourd'hui de ce qu'il était en 1929, c'est vrai.
Jean-Pierre Mercier,
restons fidèles à ces idées communistes, révolutionnaires. Nous représentons un courant du mouvement ouvrier parmi d'autres. Et c'est vrai que depuis que la LCR s'est transformée en NPA, elle ne se revendique plus de cet idéal de communisme révolutionnaire. Oui, Nathalie Arthaud, aujourd'hui, est la seule candidate communiste dans ces élections. Et nous, on milite tous les jours, du matin jusqu'au soir, pour maintenir ce courant politique qui... vous savez, pour les travailleurs, il n'y aura pas 36 solutions demain quand il y aura des cascades de licenciements. On sait tous aujourd'hui que les patrons retiennent un tout petit peu leur coup, laissent passer les élections législatives et présidentielles et que demain, oui, ça va tomber. Ils vont y aller à la hache. Et y aller à la hache, il va falloir qu'en face, le mouvement ouvrier qui a pris énormément de retard depuis toutes ces années, on fasse tomber toutes ces illusions électorales que certains dirigeants politiques essayent de renforcer dans la tête des travailleurs, que avec un bon gouvernement de gauche, on va pouvoir s'en sortir, on va pouvoir se protéger face aux patrons. C'est faux. Ce sont ces 200 grandes entreprises aujourd'hui en France qui dirigent l'économie et qui font la pluie et le beau temps. Donc c'est eux véritablement l'ennemi. Il va falloir absolument que c'est le sens de la candidature de Nathalie Arthaud, de proposer un programme de lutte, de populariser des objectifs de lutte, des mesures vitales. J'y reviens, l'interdiction des licenciements, la répartition du travail.
Oui.
Et surtout l'indexation des salaires par rapport au prix.
Il y a un point fondamental sur lequel Jean-Pierre Mercier a sans doute raison, mais c'est la suite. C'est qu'effectivement, si la social-démocratie et son chef François Hollande, s'ils sont élus, et qu'ils ne sont, comme dans les 30 dernières années, que les bons ou les mauvais gestionnaires du capitalisme, alors effectivement, la crise derrière sera grave. Mais contrairement à ce que dit Jean-Pierre Mercier, c'est pas l'extrême gauche qui en profitera. C'est sans doute la droite la plus réactionnaire et l'extrême droite. Donc sur son analyse, je suis assez d'accord. Sur les conséquences de son analyse, je suis moins d'accord.
Guillaume Roquette,
excusez-moi, d'où l'intérêt de dire aujourd'hui, dès aujourd'hui, la vérité aux travailleurs, de dire que c'est pas dans un gouvernement de gauche qui, de toute façon, ne pourra servir que la soupe des patrons, que la soupe des riches. C'est pas dans cette voie-là qu'on peut s'en sortir. C'est réellement en ayant conscience que c'est dans nos propres forces, seulement dans nos propres forces, qu'on peut compter.
Guillaume Roquette, je rappelle qu'il participe au débat des éditorialistes sur France Inter le samedi dans le 7-9 de Fabrice Drouel de 8h20 à 8h30.
Oui, ce que dit Jean-Pierre Mercier est intéressant parce que on est là typiquement dans un raisonnement d'extrême gauche. C'est-à-dire, on part d'un constat qui effectivement a quelque chose de juste, c'est-à-dire que probablement que si la crise s'aggrave, il va y avoir des luttes sociales un peu dures. Mais la conséquence, la conclusion, pardon, qu'il tire de ce raisonnement, c'est restons entre nous. Ça n'est pas de dire faisons bloc avec les principaux syndicats pour défendre la classe ouvrière contre les patrons. Non, c'est restons entre nous. Et c'est vraiment là une caractéristique peut-être dont on n'a pas encore parlé de l'extrême gauche, c'est que c'est cette espèce d'esprit de chapelle, pour ne pas dire esprit de clocher, ce qui pour des partis très laïques est peut-être abusif. Il y a Maurice Safran parlait tout à l'heure de Besancenot. C'est étonnant que Besancenot fait de bons scores à deux présidentielles successives, mais presque de trop bons scores. En 2007, il est au-dessus de 4% au premier tour, et en 2012, il se retire, comme si il n'avait pas envie de sortir de cette marginalité qui a une forme, là encore, peut-être on pourrait faire une analyse psychologique, il y a quelque chose de rassurant, parce qu'on reste entre soi, parce qu'on ne se mélange pas aux autres, et on dit, nous sommes les seuls purs, un petit peu peut-être comme Trotsky, même si on oublie un petit peu vite que Trotsky, avant d'être mis de côté par Staline, a été quand même l'un des principaux patrons de l'armée rouge et à leur responsabilité et l'origine de quelques massacres.
Jean-Pierre Mercier, vous dites que le PS sert la soupe des riches, mais François Hollande a annoncé aujourd'hui son programme pour sa première année. Blocage des prix des carburants pour 3 mois, augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de 25%, retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans et cotiser 41 annuités, suppression des niches fiscales et de la TVA sociale, taxation à 75% des plus hauts revenus. C'est ça, servir la soupe?
Et tout ça, c'est conditionné avec de la croissance.
Oui.
Voilà, ça faut pas l'oublier déjà. Alors toutes ces mesures, elles sont, alors là, excusez-moi, elles sont très très loin d'être radicales. Je prends simplement l'exemple du prix des carburants. Pourquoi le bloquer seulement pendant 3 mois? Pourquoi pas faire un état des lieux des comptes de l'entreprise Total et de voir comment ils ont fait tous ces 11 milliards de bénéfices.
Pour vous, c'est quand même mieux que rien.
Voilà, c'est quand même mieux que rien. Ça veut dire quoi, mieux que rien? Ça veut dire qu'après les 3 mois de blocage, les prix de l'essence vont exploser et puis nous, on va continuer à payer. Non. Alors, il y a une autre solution. Une autre solution, c'est indexer les salaires en fonction de l'augmentation des prix du carburant. Comme ça, nous, on est protégés. Nos salaires, notre pouvoir d'achat, il est protégé. Et puis, c'est de contrôler quand même les comptes de Total, de voir comment ils arrivent à faire autant de bénéfices, comment ils arrivent à faire autant de marges. Et puis, ça serait tout simplement aussi de supprimer la TVA et toutes les taxes gouvernementales. Aujourd'hui, que vous soyez riche ou pauvre, vous payez le litre d'essence le même prix. C'est quand même complètement injuste, cette affaire-là. Oui. Alors, vous savez, on est très, très loin des mesures radicales. Et de toute façon, c'est, vous savez, dans la vie, avoir des illusions, mettre ses espoirs dans un espèce de sauveur suprême, même si alors ça peut être Mélenchon ou ça peut être un gouvernement de gauche, c'est catastrophique parce que derrière on se casse la figure. Et moi je vous assure que de toute façon on n'aura pas le choix. Là j'entends je me souviens plus de son nom, mais dire qu'on est isolé. Lutte ouvrière, on est isolé. Écoutez, moi, je travaille à Peugeot Citroën. C'est une entreprise que la direction Peugeot a décidé de fermer en 2014. Je me sens pas isolé dans cette usine. Je me sens au milieu, soutenu, estimé par tous mes camarades de travail. Je suis militant syndical et tous les militants de lutte ouvrière sont comme ça dans leurs entreprises. On n'est pas du tout isolé du monde du travail. On est peut-être isolé de Jean-Luc Mélenchon. On est peut-être isolé de François Hollande. Ouais, mais alors ça, vraiment, ça nous gêne pas et ça nous empêche pas de dormir.
Au standard, un appel d'Alexis à Paris. Bonsoir.
Oui, bonsoir. En fait, j'aurais voulu savoir que pensaient les journalistes sur le plateau des mouvements anarchistes et libertaires, donc qui continuent en fait d'exister et de grossir et vraiment d'être actifs sur le terrain, alors que parallèlement à ça, LO et le NPA continuent à faire le jeu médiatique et à participer au présidentiel.
Comme disait Guillaume Roquet tout à l'heure, on est toujours à l'extrême gauche de quelqu'un.
Patrick Jarreau, oui. Oui, effectivement.
Donc l'anarchie est plus à gauche que Lutte ouvrière et le NPA. C'est un mouvement qui est toujours présent, toujours très marginal, qui a repris un peu d'activité à travers la contestation altermondialiste, surtout dans ses formes, disons, radicales, voire violentes, qu'on retrouve un petit peu dans ce qu'on appelle le mouvement des indignés. L'anarchie ou l'anarchisme existe. Pour autant, il n'a pas réussi, malgré des manifestations importantes comme celles qui visaient les sommets du G8 ces dernières années, il n'a pas réussi là non plus à sortir de sa marginalité.
Bénédicte Anis nous a envoyé ce courriel. Même si l'extrême gauche n'a aucune chance de gagner, elle dénonce les injustices, les souffrances des plus démunis. Même pour cela, la candidature de Nathalie Arthaud est utile, ne serait-ce que tous les 5 ans.
Mais ce qui est paradoxal dans le fond, et c'est une récurrence dans l'histoire, c'est que quand les crises économiques, sociales sont profondes, c'est à ce moment-là que l'extrême gauche, jusqu'aux anarchistes, mais c'est à ce moment-là que l'extrême gauche est la plus faible. Parce qu'effectivement, il y a une inquiétude extrêmement profonde dans le peuple, et c'est à ce moment-là où il se retourne effectivement vers des partis politiques plus classiques. Jean-Pierre Mercier a parfaitement raison sur un point. Jean-Luc Mélenchon, c'est un enfant de la social-démocratie. Et fondamentalement, il reste social-démocrate. Alors, il n'a plus aujourd'hui les mêmes analyses que la majorité de la social-démocratie, mais Jean-Luc Mélenchon est un social-démocrate. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a peu de choses communes entre lui et la gauche extrême.
Jean-Pierre Mercier.
Écoutez, aujourd'hui, l'extrême gauche est faible. Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud est créditée de 1%. C'est un constat. Je le constate. Je suis bien d'accord. Électoralement, oui.
Et ça ne semble pas vous inquiéter, vous décevoir. Vous faites ce constat. On a l'impression que pour vous, en fait, l'élection présidentielle, tous les 5 ans, vous la préparez, vous vous organisez pour avoir les 500 signatures, pour être présent. Là, vous avez une formidable chambre d'écho, puisque vous intervenez dans les médias, à la radio, à la télévision, pour faire passer vos idées. Vous savez très bien que ça n'ira pas plus loin, mais voilà, vous existez tous les 5 ans.
On s'en sert pour populariser, des mesures qui nous semblent aujourd'hui vitales pour le monde du travail, pour protéger les conditions de vie des travailleurs. Voilà. Et on sait très bien que c'est pas par le bulletin de vote, et ça, on tient à le dire, c'est la vérité,
absolument.
Mais il faut la marteler, cette vérité. Et aujourd'hui, électoralement, on pèse peu, parce que aujourd'hui, les travailleurs n'ont pas envie de se battre. Ils n'ont pas confiance dans leur propre force. Voilà. Maintenant, attendez qu'il y ait un nouveau juin 36. Attendez qu'il y ait un nouveau mai 68. Quelles idées seront majoritaires dans ces moments-là? Qui c'est qui organisera la bagarre? Qui sait qui organisera la grève générale? Ceux qui ont menti pendant des années ou des années, ou si ceux qui ont maintenu l'étincelle, qui ont maintenu la petite flamme, difficilement, avec nos petits bras, on est bien d'accord, mais en tout cas qui sont restés fidèles à leurs idées et qui ont expliqué constamment cette vérité qu'on a en face de nous nos vrais ennemis. C'est même pas la gauche, c'est pas ça, c'est pas les gouvernements. Nos vrais ennemis, ce sont les patrons, les vrais décideurs, les actionnaires de ces grandes entreprises. Alors, ok, le personnel politique de gauche comme de droite sert leurs intérêts, leur sert la soupe et essaye de faire passer des politiques impopulaires et anti-ouvrières. Maintenant, oui, dans ces moments-là, je peux vous dire que ça sera nos idées qui seront majoritaires. Ce qu'il faudra, c'est foutre la trouille au patron et aller le plus loin possible
pour faire reculer le plus loin possible. Patrick Jarreau.
Non, juste pour rappeler rapidement que l'extrême gauche trotskiste est à une autre fonction importante dans la société politique française, c'est celle de la formation des cadres, que ce soit la Ligue communiste, l'ex-Ligue communiste, un peu moins peut-être Lutte ouvrière, le parti lambertiste auquel a appartenu Jean-Luc Mélenchon dans ses jeunes années. Bah, c'est un peu une sorte de Sciences Po de la gauche. Elle forme des cadres qu'on retrouve ensuite dans les partis, dans les syndicats, et après tout, c'est une fonction pas inutile qu'elle remplit dans la formation d'une partie du personnel politique français.
Mais il n'y en a aucun qui vient de Lutte ouvrière.
Il y en a quelques-uns.
Guillaume Roquette, vous voulez dire un mot ?
Oui, parce que Jean-Pierre Mercier disait, si mai 68 revient, nous serons en première loge. Mais je crains pour lui que mai 68 ne revienne pas. Parce que mai 68, c'était une France sans chômage, une France qui ne connaissait pas la crise.
Et
c'est
dans
ça que je suis d'accord avec Maurice Safran. La conjoncture d'aujourd'hui fait que l'utopie d'extrême gauche est une sorte de luxe de temps de paix, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des préoccupations beaucoup plus concrètes et beaucoup plus immédiates qui font que cette projection dans un monde révolutionnaire, à mon avis, n'est pas en phase avec les attentes ou les espoirs de l'opinion.
Merci à nos invités.
Merci
Jean-Pierre
beaucoup.
Mercier, Patrick Jarraud, Guillaume Roquette, Maurice Safran. À demain à 19h20, le téléphone sonne.
Cette émission a été dirigée par Pierre Veil, attaché de production Marie-Claude Malartic, et cette émission a été réalisée par Laurent Thomas.